Je suis pour le métissage de la société, c'est-à-dire que je trouve que la société française, son avenir, sa beauté, c'est le mélange. Ah, c'est ça, ça craint. Quand j'étais ado, hein, moi, quand je croisais une voiture de police, franchement, j'avais peur.
La vérité, ça me révolte. La vérité, quand vous accompagnez votre enfant à l'école, comme je l'ai fait, dans une ZEP, et que vous voyez les gosses, et que vous dites que les trois quarts d'entre eux, leur destin, il est presque écrit. Pas leur destin individuel, ils ont encore des chances, mais leur destin scolaire, social, c'est un peu écrit. Et que, année après année, à chaque rentrée, vous les voyez marginalisés, vous en voyez moins, vous voyez qu'ils décrochent. C'est révoltant. Alors, votre solution. Je me suis fait une conviction. Il n'y a pas de solution pour les uns qui ne soit pas une solution pour les autres. C'est un plan France, un plan République qu'il faut, pas un plan banlieue.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mamadou et Binta, les conteurs de belles histoires. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la diversité à travers l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est mon papa. Après avoir passé une enfance heureuse au Sénégal, au sein d'une fratrie de 10 enfants, il arrive en France dans les années 80, âgé de 23 ans et des rêves plein la tête. Petit, papa voulait intégrer l'armée, devenir un grand officier. Brillant élève, il aime beaucoup les matières littéraires, et c'est finalement en fac de lettres qu'il s'inscrit lors de son arrivée à Paris. L'idylle avec son nouvel environnement est de courte durée. Conditions climatiques défavorables, nécessité de trouver un emploi rapidement pour subvenir à ses besoins, apprentissage de nouveaux codes. Quand il parle de cette arrivée, il parle souvent de douche froide ou de claque. Pas évident d'atterrir quelque part que l'on pensait connaître et se rendre compte que rien n'est comme on nous l'avait expliqué. Alors comme il le dit, il a dû faire des choix, bons ou mauvais, mais les choix ont été faits. Il parle parfois de parcours chaotique, car conscient que certaines décisions prises n'ont pas été les bonnes. Cela, il ne le nie pas. Malgré tout, après 40 années passées au pays de Marianne, une conviction. Ce parcours aurait été très différent s'il n'avait pas été d'origine africaine, s'il n'avait pas été un homme dans une France dessinée et dirigée par des personnes très différentes de lui. Face à ce constat, j'émets souvent des objections. Je me dis que ça n'a pas juste à voir avec le fait d'être noir. Ça a plutôt à voir avec le fait de faire partie d'une minorité, quelle qu'elle soit. Comme je le dis souvent, je suis le profil de personne type que l'on pourrait taguer de « toute minorité confondue ». J'ai grandi et j'évolue aujourd'hui à une époque censée être plus ouverte et plus clémente envers les minorités. Et pourtant, je fais souvent le constat que l'une ou l'autre de mes diversités est souvent mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve en tant que femme, montrer qu'on peut toujours faire aussi bien que les hommes, alors que les standards de performance ont été définis selon leurs règles. La mise à l'épreuve en tant que personne jeune, montrer que ce n'est pas parce qu'on n'a pas 30 ans d'expérience qu'on ne peut pas être pertinent. La mise à l'épreuve en tant que femme qui adore la mode, et oui, on peut kiffer s'habiller, se maquiller et ne pas être écervelée. La mise à l'épreuve en tant que musulmane, rentrer dans le carré de musulmans modérés qu'ils ont dessiné, montrer que ce n'est pas parce que je m'intéresse de plus en plus à la langue arabe que je projette de me lancer dans le djihad. La mise à l'épreuve en tant que noir, prouver que l'on n'est pas une racaille, tout ça parce qu'on est en jogging et en basket. Dans ma cartographie de la diversité, il y a une chose qui revient systématiquement. Il faut prouver, démontrer, faire ses preuves. Il faut rassurer celui qui n'est pas comme nous, qu'il n'a rien à craindre, qu'il se trompe et qu'il doit voir en moi au-delà de ce que mon image projette. Cet effort de séduction, de conviction de l'autre, c'est cet effort auquel sont soumises toutes les minorités. Couper, rogner, arrondir pour mieux rentrer dans la case. La grande différence entre papa et moi, c'est qu'à son époque, il n'y avait de toute façon aucun moyen pour lui de rentrer dans la case standard. Il partait de beaucoup trop loin. Pour moi, et pour beaucoup de mes semblables, c'est un peu différent. On a grandi et on a été à l'école de la République. Donc ce n'est plus si dur d'entrer dans la case. On a été éduqués pour ça. La question que l'on se pose maintenant, c'est « veut-on vraiment y rester ?» Et quand on commence, ne serait-ce qu'à questionner cette case, alors la réponse à cette interrogation est assez évidente. La question de la mixité et du droit à la différence a émergé en France grâce au questionnement sur la place des femmes partout dans le pays, dans les entreprises, dans les institutions, en politique. Les mouvements pour la parité hommes-femmes ont mis en évidence la nécessité de prendre à bras le corps le problème d'une minorité pour la faire évoluer. Légiférer pour plus de mixité, on l'a fait pour les femmes et je ne peux que m'en réjouir. Ce combat hommes-femmes a permis de montrer qu'il est compliqué d'être une femme dans un monde façonné par les hommes. Il a permis de montrer que la configuration du monde par une hégémonie masculine a un impact considérable pour ceux qui ne sont pas neutres. La neutralité étant, l'homme, les autres, tous les autres, sont invisibilisés. Les avancées pour les droits des femmes sont pour moi une démonstration de la nécessité d'insister à la mixité, en en parlant, en la valorisant, en la saluant. Toutes ces réflexions, je peux les avoir car j'ai eu la chance de grandir à une époque où l'accès à l'information est facilité. Je l'ai également car je ne suis pas arrivée avec des valises, comme le dit souvent papa. Il voit le problème surtout autour de la question noire, je le vois à travers toutes mes diversités. Époques différentes, profils différents, visions différentes. Mais il y a deux choses sur lesquelles on est d'accord. La première, l'histoire de la France ne se fera pas sans une reconnaissance et une valorisation de sa mixité. La deuxième, toutes les jeunesses, financièrement favorisées ou pas, doivent être accompagnées, encouragées, supportées, si on veut vraiment qu'elles réussissent. On ne pouvait pas capter toutes les sens d'un homme en une interview. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé mon micro dans de nombreuses conversations familiales. Ce qu'on vous livre aujourd'hui, ce sont des extraits de conversations tels qu'on peut les avoir tous les jours à la maison. Cela vous permettra de mieux comprendre notre initiative, pourquoi nous sommes convaincus que donner des ailes à la jeunesse passe par lui montrer des exemples auxquels elle peut s'identifier et lui souffler qu'à chaque fois qu'elle se sentira différente ou hors norme, elle ne l'est pas, car c'est la singularité qui rend chacun d'entre nous exceptionnel. Allez, assez parlé, place à papa maintenant. Il nous livre ses convictions avec enthousiasme et beaucoup d'humour.
J'ai pris le premier travail qui m'est tombé sous les bras.
D'accord.
La peinture en bâtiment.
D'accord.
Et j'en ai fait un métier.
Donc, en fait, c'était ton premier métier quand t'es arrivé en France et t'as toujours fait ça.
J'ai toujours fait ça. Ça fait 40 ans que je fais ça.
Un Français à part entière. Moi, je pense aussi que je suis française. Et il y a des gens qui ont une perception qui est totalement différente. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on doit leur dire à ces gens-là?
À ces gens-là, on doit leur dire qu'ils ont une totale méconnaissance de l'histoire de la France. À ces gens-là, qui sont sur les plateaux et qui donnent des leçons à tout le monde, ils doivent d'abord commencer par apprendre l'histoire de leur pays. Nous, on n'est pas venus en France en premier. C'est les Français qui sont venus chez nous, nous coloniser. Moi, je suis né au Sénégal, de parents sénégalais, mais je suis né français. Je n'ai rien demandé à personne.
Pourquoi t'es né français?
Je suis né français parce qu'il y a une loi française qui disait que tous les enfants nés pendant la colonisation étaient des Français.
D'accord.
Moi, je suis né pendant la colonisation et je suis français d'office. Donc, moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Donc, à ces gens-là, il faut leur apprendre l'histoire de leur pays. Il y a eu un processus qu'il faut bien expliquer quand même aux jeunes. C'est qu'en 1974, la France a eu un choc pétrolier. Et avec ce choc pétrolier, ils sont entrés dans la crise. Et avec ça aussi, ils se sont rendus compte que dans les 30 prochaines années, les systèmes sociaux de retraite et de la sécurité sociale vont être complètement en faillite. Ils vont être complètement en faillite et en cessation de paiement. Les Français, les gouvernants français qui sont quand même très intelligents, ils se sont dit, on va ouvrir les vannes aux pays africains, francophones, pour que les gens émigrent et viennent s'installer en France. Je te signale à ce passage que pendant cette période-là, la carte de séjour était pratiquement donnée par rapport à maintenant. Ça, c'était dans le but effectif que les gens viennent s'installer, fondent des familles et font des enfants. Donc, ces enfants-là qui vont naître, ils étaient préparés à remplacer leurs parents. Des gens comme moi, qui ont balayé, qui ont peint. Il y a pas mal d'enfants qui sont victimes de leur situation familiale. Et le système les a aidés à rester comme ça. Moi, je dis à ces jeunes, que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il faut juste se remettre dans les rails. Il faut retourner, il faut revenir sur les rails. Et faire comme tout le monde, aller à l'école, faire des formations, aller trouver du travail et s'insérer dans la vie. Parce que ce pays est le leur. Ce pays est le leur. Moi, je leur demande de le fréquenter, ce pays. D'aller dans les cinémas, d'aller dans les théâtres, d'aller dans les stades. De ne pas s'auto-censurer. De ne pas s'auto-censurer. De se considérer comme des étrangers. Ils ne sont pas étrangers. C'est des fils de c'est des Français qui sont nés ici, que leurs papas, ils ont payé des impôts, ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des routes, ils ont construit des musées. Donc, ici, c'est chez eux. Fait plusieurs chemins tortueux, d'avoir eu un parcours chaotique, d'avoir aussi de l'expérience sur ce pays, je me dis que pourquoi pas ne pas partager ce que j'ai comme expérience aux jeunes, afin que ça leur serve pour ne pas que demain ils retombent dans les mêmes travers. Peut-être qu'ils y tomberont pas, peut-être qu'ils y tomberont, mais je pense que j'ai un message à délivrer et que ce serait ingrat de ma part, avec tout ce que j'ai accumulé comme expérience, de partir avec sans le leur donner. Qu'ils l'appliquent, c'est bon. Qu'ils ne l'appliquent pas, mais je pense que je fais mon devoir en leur parlant. Et je dois leur parler et je leur parlerai tant que je serai en vie. Ben, je parle de parcours chaotique parce que ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a pas été facile parce que dans toutes les entreprises où on arrive, on est là, on n'est pas à la risée, mais on est toujours considéré comme un second... un second citoyen, qu'on n'est pas on est très mal vu, on est toutes les tâches ingrates nous sont réservées. Et ça c'est un truc, c'est un cheminement, on s'en rend pas compte au début. Des fois il faut une dizaine d'années pour se rendre compte en fait que si on n'a pas progressé, c'est qu'on nous avait réservé un travail pour ne pas qu'on progresse jamais. Mais ça, il faut du temps pour s'en rendre compte. Parce que le salaire, il est versé tous les mois, on paye son loyer, on fait ce qu'on veut, on croit qu'on est bien intégré. Mais là, le piège se referme sur vous après au moins 10-15 ans qu'on se rend compte que c'est pas ça du tout. Non, mais chaque personne est mise dans une case, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Tout le monde. Je relance encore un autre message aux jeunes. Je leur demande toujours de cogner à la porte. Il faut cogner sur la porte. Vous cognez 5 fois, ça ne s'ouvre pas. 6 fois, ça ne s'ouvre pas. Mais continuez à cogner tôt ou tard, elle s'ouvrira. Votre porte s'ouvrira tôt ou tard.
Donc, il faut faire preuve de persévérance.
Il faut faire preuve de persévérance et avoir aussi la formation nécessaire. Il faut aussi avoir la formation nécessaire. On ne va pas à la guerre sans armes. Il faut des bagages. Il faut des bagages, ne serait-ce qu'un CAP. Il faut des bagages, parce que c'est un pays qui, quand vous allez aux États-Unis, on vous demande si vous savez le faire.
Ouais.
Vous venez en France, on vous demande le diplôme.
Qu'est-ce que tu penses que c'est quoi les qualités qu'il faut avoir, qui sont importantes d'avoir en fait, pour réussir sa vie, pas réussir dans la vie, réussir sa vie.
Moi, je pense qu'il faut être tolérant. Moi, je pense qu'il faut être dans la vie très tolérant et accepter aussi. Accepter les choses, accepter les autres, être généreux.
Ouais.
Moi, je pense que pour réussir sa vie, il faut être généreux. Généreux dans tout, hein, dans l'effort, dans les finances, dans tout. Être généreux avec un grand G. We'll be right back. il existe, il est réel.
Ouais.
C'est un problème social qu'on vit tous les jours. Mais il ne faut pas s'attarder dessus. Continue ton chemin parce que tu as un chemin à faire. Ne te fais pas, ne te victimise pas et ne te fais pas détourner de ton chemin. Tu as des objectifs à faire, réalise-les. Et après, quand tu seras grand, quand tu seras en haut, tu pourras rigoler. Mais tant que tu resteras là, à te victimiser, à croire qu'on te veut du mal, à ne pas faire d'efforts, mais tout est entre tes mains et ta tête. Tu dois te lever et te battre. Rien n'est facile, rien n'est gagné. Rien n'est donné dans la vie. Rien n'est gratuit.
T'as combien d'enfants alors ?
Moi j'ai 3 enfants.
Ok, donc on sait déjà que t'as une fille puisque c'est moi.
Oui.
Et
j'ai 2 garçons.
Et
là,
deux
j'ai
garçons.
Malik, à qui j'ai donné le prénom de mon père.
Ouais.
Et Aboubakar.
Alors, parlons des prénoms justement. Là, toi tu t'appelles Mamadou. Est-ce que tu penses que c'est un prénom facile à porter ? En France ?
Oui.
En France ?
Oui, mais en France. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais même pas imaginer dans une petite seconde qu'un prénom pouvait porter un handicap. Et ça, pour le savoir, il faut des années et des années et des années.
Prénom Mamadou en lui-même, il y a tout un historique et une connotation.
Il y a une connotation et tout un historique.
Enfin, parce que par exemple, si tu prends le prénom de, je sais pas, de Malik, il n'y a pas forcément la même connotation.
Il n'y a pas forcément la même.
Parce qu'en fait, c'est marrant parce que en fait, du coup, je te pose cette question-là parce qu'en fait. Moi, quand j'attendais mon premier enfant, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais du coup, est-ce que vous savez déjà comment vous allez l'appeler ?» et tout ça. Et puis, je disais non, mais en fait, nous, on a une tradition au Sénégal. C'est qu'en fait, quand tu as un enfant, tu lui donnes le nom de quelqu'un qui t'est cher. Donc, en général, on donne soit les noms des parents, soit les noms des frères, des sœurs, en tout cas, des gens qui sont importants pour nous et dont, pour qui on a de l'estime. Et donc, du coup, moi, je disais, bah, ça sera probablement, si c'est un garçon, ça sera Mamadou ou Alioune, parce que c'est les noms de nos papas. Et en fait, souvent, la réaction, c'était, non, mais genre, en 2013, tu peux pas appeler ton fils Mamadou, quoi.
Oui,
c'est
voilà.
Juste pas possible. Tu
oui,
peux pas
voilà.
Appeler ton fils Mamadou.
Voilà. C'est toi qui as vécu ça.
Et en fait, du coup, je disais, mais en fait, c'est très marrant. Enfin, je comprends pas. Mamadou, c'est un prénom comme un autre. Mais en fait, tu te rends compte qu'au final, il y a des prénoms qui portent toute une histoire.
Ah.
Bon, après, bon, voilà. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles nous, on est très fiers d'appeler ce podcast Babadou et Binta. Qu'est-ce que tu dirais, toi, c'est quoi tes qualités à toi ?
Moi ? Je ne sais pas si j'ai des qualités.
Bah, moi, t'en as forcément.
Je pense que c'est aux gens avec lesquels je vis qui peuvent dire que j'ai des qualités. Moi, je sais que déjà, de naturel, je suis gentil.
Ouais. C'est une très bonne qualité d'être gentil.
Oui, non, c'est pas pour me vanter, mais je sais que je suis gentil et je suis donneur d'efforts. Je mesure pas mes efforts quand je rends service à quelqu'un. Ça, je le sais et j'en suis persuadé. Mais le reste, c'est aux autres de le dire. Je sais pas.
Donc gentil et serviable.
Oui, c'est ça, donneur d'efforts. Je veux dire, je peux passer mes journées à aider des gens que je connais pas ou dans la famille. Ça a toujours été ma nature.
D'accord. Bah, c'est une très très grande qualité.
Mes enfants, ils sont nés ici. Et je m'étais fait, je ne sais pas si on peut appeler ça un devoir, mais je m'étais fait une promesse. La promesse que j'avais faite, c'est que je n'ai jamais d'enfant qui puisse aller travailler dans le bâtiment. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre le bâtiment. C'est parce que c'est un monde où je suis rentré, que je ne connaissais pas du tout, et qui est un monde très, très, très dur. Une fois, j'ai eu mon dernier fils, qui était assez turbulent quand même à l'école. Un de ses professeurs conseillers m'avait convoqué une fois et me dit « Oui, M. Diop, votre fils ne veut pas travailler. » Je lui dis « Alors ?» Il me dit « Je lui conseille d'aller faire un CAP maçon. » Moi, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu « Est-ce que vous avez un fils dans le bâtiment ?» Il m'a dit « Non. » Je lui ai dit « Quand vous aurez un fils dans le bâtiment, on en reparlera. »
Moi, est-ce qu'il savait que tu travaillais dans le bâtiment ou pas?
Je ne sais pas s'il le savait. Moi, je lui ai juste posé la question s'il avait un fils dans le bâtiment. Je lui ai dit, est-ce qu'il a travaillé dans le bâtiment? J'ai dit non. J'ai dit, le jour où vous aurez un fils, on en reparlera. Parce que celui-là, je lui ai tenu une promesse. Je lui ai dit, celui-là, il n'est pas fait pour être maçon. Et il ne sera jamais maçon. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi, sur les fiches de renseignement des parents, on demande toujours la profession du père.
Par exemple.
Et ça, j'ai toujours refusé de le faire. Jusqu'au jour aussi où on m'a convoqué une fois pour me demander pourquoi vous ne mettez pas votre profession. Moi, j'ai répondu que le fait d'enseigner mon enfant n'a rien à voir avec ma profession.
Ça, c'est clair.
Il ne faut pas porter déjà des jugements sur le fils d'un ouvrier par rapport au fils d'un médecin ou d'un ingénieur.
Ouais, ça c'est clair que... En fait, on se pose toujours la question pourquoi on demande toujours
pourquoi
la profession.
Pourquoi on demande la profession? Pourquoi?
Bah ouais, ça veut...
Pour stigmatiser l'enfant, non?
Je sais pas. C'est un peu curieux parce que du coup, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec...
Avec l'enseignement qu'on croit aux enfants.
Ouais, avec l'enseignement, avec les performances. Voilà. Mais je pense que c'est un peu comme tout. Enfin, après, eux, ce qu'ils disent, je crois, c'est qu'ils essaient de comprendre l'environnement de l'enfant, dans quel contexte familial il
peut grandir. Oui, mais pourquoi j'ai été contre ce système? En fait, c'est-à-dire que, comme il dit, moi, des profs m'ont dit, oui, on essaie de comprendre son environnement. Oui, mais c'est-à-dire que, par exemple, si mon fils ou ma fille a 2 sur 20, on dira que ce n'est pas catastrophique, il est d'une famille ouvrière. Mais si le fils du médecin a 2 sur 20, on dit, oh là là, il faut appeler le papa parce que celui-là, il ne faut pas qu'il ait... Non! Non! Moi, je me suis toujours battu contre ce système. Moi, je suis d'accord que pour aller à l'école, il faut un accompagnement. Ça, j'ai accompagné mes 3 enfants. J'ai fait de mon mieux possible. Mais l'école ne donne pas toutes ses chances aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont décroché à cause des brimades, des stigmates, des étiquettes qu'on leur colle à la peau. Mais ils n'ont pas la capacité toujours de réagir. Ils sont face à une institution qui est bornée de chez bornée.
C'est vrai.
L'école n'accepte pas l'ouverture. C'est toujours le même fonctionnement depuis Bonaparte. C'est une école de, comment on appelle ça encore, de la pensée unique.
Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet qui nous intéresse, est-ce que tu trouves que la diversité, elle a évolué depuis... Enfin, en tout cas, le rapport de la France à la diversité, il a évolué depuis les années 80.
Heureusement qu'elle a évolué. Elle a même beaucoup évolué. Mais parce que c'est la marche de l'histoire. On ne peut pas reculer. C'est obligé. Il faut que la France s'ouvre. Il faut que la diversité s'installe. Il faut qu'on accepte les autres.
Donc on est plutôt dans un sens favorable en fait.
On est dans un sens très favorable et je suis très optimiste.
Ouais, c'est bien, je pense que...
Je suis très optimiste.
Après je pense que voilà, de toute façon, on peut toujours pointer du doigt les progrès à faire parce qu'il y a toujours du mieux à faire, mais on voit quand même une évolution. Moi je vois rien que... Enfin voilà, tu peux voir au niveau des médias, ça se...
Oui.
T'as plus de représentation.
Non mais je suis optimiste, je suis très optimiste et je pense que ça c'est la marche de l'histoire même de la France. On ne peut pas reculer, il faut qu'on avance. Mais j'ai 2 ou 3 aspects à signaler. Moi, je pense, personnellement, que le jour où on verra dans une série française, un film français, un commissaire noir, asiatique ou black, ou arabe, engueuler un délinquant français, blanc,
j'avoue.
Je pense que les mentalités évolueront.
Ouais, c'est vrai que là, par contre, pour le coup, il y aura une vraie inversion des rôles. Ouais,
je pense qu'il faut que le regard change. Les médias, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas les médias qui font la France.
C'est vrai.
C'est le terrain. C'est quand vous rentrez chez votre boucher et que vous trouvez une personne de la diversité, que vous allez chez le boulanger et vous trouvez une personne de la diversité, que quand vous regardez un film, l'avocat, il est noir au lieu d'être un délinquant. Alors, c'est là où moi je pense qu'il faut travailler là-dessus. C'est le terrain.
Mais du coup, justement, le terrain, ça apporte un vrai sujet parce que. Au final, tous les métiers que tu as cités, c'est des métiers sur lesquels, en fait, il faut orienter les gens. Parce que boucher, pâtissier, tout ce que tu veux, cuisinier, c'est des métiers qui nécessitent un minimum de formation.
Oui.
Et ça veut dire qu'aussi, il faut montrer aux jeunes, donc peu importe qu'ils soient de la diversité ou issus de catégories sociales modestes, qu'ils ont une palette de métiers et de choses qu'ils peuvent faire dans la vie qui est très étendue.
Mais c'est ça. Non, mais c'est que la France offre d'innombrables opportunités de réussite. ne peut pas aussi rester au bas de son immeuble et commencer à critiquer. Il faut se lever, demander des renseignements, demander aux gens, dans leur, même si eux, ils n'ont pas réussi scolairement, dans leur entourage, ils connaissent forcément quelqu'un qui a fait des études ou qui connaît quelqu'un qui... on peut demander des renseignements. Aller à la source de l'information. Aller faire des formations. Mais on ne peut pas rester comme ça sur le bord du trottoir en critiquant tout le monde. La France offre quand même des opportunités. On peut s'en sortir. Et il faut s'en sortir d'ailleurs. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'en sortent.
Donc il faut qu'ils soient curieux quoi.
Ouais, il faut qu'ils soient curieux. Prenez le métro, fréquentez le pays, allez voir autre chose. Il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités.
L'égalité des chances. Quels conseils tu lui donnerais et surtout quelles seraient les premières actions que tu ferais?
Moi je dis qu'un ministère de l'égalité des chances n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens.
Et bien moi tu vois je suis convaincue que ça a du sens.
Non, parce que si. bien avant le ministère de l'égalité des chances, on a eu ici dans les années 80, même jusqu'aux années 90, des ministres issus de la diversité. Ils ont été nommés pour montrer aux autres que si vous pouvez y arriver, voilà, l'exemple est là, il y arrive lui. Mais c'était des ministres sans budget, sans pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir. Donc si on nomme un ministre de l'égalité des chances et qu'on lui coupe l'herbe sous les pieds, il sera là et il ne fera rien du tout comme travail.
Alors je reformule ma question. Voilà. Si on crée un ministère de l'égalité des chances avec des moyens, beaucoup de moyens, une équipe et tout ce qu'il faut avec, quels conseils tu lui donnerais et quelles actions tu lui recommanderais de mener en premier?
L'action que je lui donnerais en premier, c'est la discrimination positive.
Tu crois la discrimination
Moi,
positive?
Je suis pour la discrimination positive. J'y crois fortement. Que ceux qui seront aidés positivement aient quand même les capacités de faire le travail pour lesquels on les embauche.
Donc à compétence égale.
À compétence égale, chance égale. Moi, c'est ça. À compétence égale, chance égale. Ça, ce serait le premier conseil que je lui donnerais.
Bah c'est bien, donc tu vois, donc tu y crois un petit peu quand même.
Mais j'y crois s'il a des moyens, mais si c'est une fantoche comme ceux qui sont passés avant, ça sert à rien.
Alors ma dernière question, pourquoi est-ce que tu as choisi de participer à ce projet?
J'ai choisi de participer à ce projet parce que, tout simplement, je pense que les gens de ma génération, on n'a pas le droit de se taire. On a vécu tellement de galères, on a eu tellement d'opportunités dans notre vie qu'on n'a pas saisies. On a vécu tellement de choses, je pense qu'on ne doit pas se taire, on doit le transmettre. Il faut transmettre. Tous les jeunes doivent écrire leur propre histoire. Parce que vous êtes dans un pays auquel vous avez le droit, je dis bien le droit de réussir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Mamadou et Binta, les conteurs de belles histoires. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur iTunes ou sur SoundCloud et aussi à nous laisser vos commentaires et avis. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode où nous irons à la rencontre de notre premier rôle modèle. Et si vous avez des enfants à la maison ou dans votre entourage, on vous invite à découvrir l'épisode version tout petit qu'on vous offre en plus de celui d'aujourd'hui. Il est déjà disponible en ligne. À très vite !